Vous êtes avec SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons le plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio SBS Alexis Bergans, qui est l'auteur de French Connection, Australia's Cosmopolitan Ambitions. C'est publié chez New South. Bonjour et bienvenue sur nos ondes.
Bonjour.
Et donc, d'après ce que je comprends, c'est un livre sur la présence et la culture française aux antipodes. Je peux le décrire comme ça?
Ah oui, tout à fait. Alors, au début, fin du 19e siècle et début du 20e siècle, alors ça, c'est vraiment le contexte du livre. L'idée qui est derrière le livre, l'idée initiale, c'est la place importante que la culture française a jouée dans l'imaginaire britannique tout au long du 19e siècle. Alors bien sûr, c'est une histoire beaucoup plus ancienne qui a bien un millénaire, depuis la conquête normande de l'Angleterre en 1066 avec Guillaume le Conquérant. Mais pour une élite britannique au XIXe siècle, en Grande-Bretagne comme dans les colonies australiennes, la culture française, c'est un signe de distinction sociale. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce livre, c'est d'examiner comment cette idée de distinction sociale liée à la culture française se déploie en Australie. Donc, par exemple, on peut parler de culture avec un grand C, comme de lire des auteurs français, ou de dire qu'on peut lire des auteurs français, surtout dans l'original, ou dans un sens plus mondain. Par exemple, on peut porter une robe qui vient de Paris, surtout à Melbourne, comme c'est très loin, ça signifie non seulement qu'on est sophistiqué, mais qu'on a aussi une influence financière. Nous, on parle de culture maintenant, mais au XIXe siècle, on aurait sûrement appelé ça la civilisation. Alors c'est problématique, c'est un terme problématique dans son aspect colonial. Mais à l'époque, c'est vraiment l'idée que différents groupes de personnes, qu'ils soient groupés par religion ou ethnicité, sont arrivés à différents niveaux de vie organisés et que de fait, ces groupes se trouvent à différents stades de ce qu'on considère alors comme un processus de civilisation. Donc c'est le passage de la barbarité à la civilité. La civilisation britannique, elle est applaudie pour son génie en commerce et en industrie. La civilisation française, elle est applaudie pour son génie dans les arts, la musique et la littérature. Bien sûr, les populations indigènes sont soit reléguées au bas de l'échelle civilisationnelle ou on ne leur donne pas une place sur cette échelle du tout. Et l'idée que j'explore dans le livre, French Connection, c'est que quand les Australiens parlent de culture française, qu'ils parlent de la mode ou de la gastronomie française, ou même d'objets qu'on associe avec la France, comme déjà à l'époque des préservatifs ou des drogues abortives, donc c'est l'idée de promiscuité, ce dont ils parlent vraiment, c'est d'eux-mêmes. Ici, on est à la fin du 19e siècle, un moment où les colonies australiennes étaient sur le point de se fédérer en une nouvelle nation. Et donc c'est le moment où les Australiens étaient en train de s'imaginer ou d'imaginer quel futur ils voulaient avoir. Et la France joue un rôle de miroir et présente une alternative au modèle britannique et surtout à un modèle victorien avec toutes ses restrictions sociales, culturelles et aussi sensuelles.
Dans le chapitre que vous consacrez, par exemple, à l'Alliance française de Melbourne qui a été créée, je crois, en 1890, et l'idée est venue d'abord d'un Mauricien, Maurice Astruc, et comme il était un homme de couleur, je crois qu'à la fin, c'est Berthe Mouchette qui sera reconnue comme étant la fondatrice de l'Alliance française de Melbourne?
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, l'Alliance française, en tant qu'institution, elle est créée à Paris en 1883. Et elle a pour mission de disséminer la langue française, la littérature et la culture française dans le monde, dans l'Empire français et en dehors de l'Empire français. Et Madame Mouchette, elle fonde l'Alliance française de Melbourne, enfin de Victoria, comme elle s'appelait à l'époque, ici en 1890. Mais l'histoire de cette création est un peu plus complexe que ça. L'idée initiale vient en effet d'un Mauricien qui s'appelle Maurice Astruc. Il a proposé de former une branche de l'Alliance française ici à Melbourne, mais le consul de l'époque, Léon Desjardins, ne voulait pas que l'initiative soit perçue comme venant, et je cite, d'un homme de couleur. Il avait peur de l'opprobre que cela pouvait attacher à l'Alliance, et plus peur que des personnes de la bonne société de Melbourne ne veulent pas s'y associer. Donc, plutôt que de laisser M. Astruc s'en charger, le consul, Léon Desjardins, va voir l'avocat du consulat, Joseph Wolff, et lui demande de mettre en place l'Alliance française. Madame Mouchette, à l'époque, elle est connectée au consulat par son mari qui y travaille, mais elle est aussi connue comme institutrice, comme professeure de langue française ici et comme artiste à part entière. Et elle se propose très simplement à l'époque de former un comité de dames. Donc il y aurait eu un comité d'hommes et un comité de dames en même temps. Mais à ce moment-là, M. Wolf lui-même tombe malade et ne crée pas ce comité d'hommes. Et donc, on me parle, presque par défaut, il n'y a juste qu'un comité de dames qui est créé. Donc, Mme Mouchette est effectivement la fondatrice de l'Alliance française, mais l'histoire est un peu plus complexe. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, quand elle se développe, c'est de voir les différentes visions de la France qui s'articulent. Ce comité de dames que Mme Mouchette crée est composé de femmes de la bourgeoisie coloniale. La plupart d'entre elles sont anglaises ou de langue anglaise. Madame Mouchette et sa sœur, elles, déménagent à Adélaïde en 1894. Et du coup, ce premier comité de l'Alliance française n'est composé plus que, et je dis ce mot pas dans un sens péjoratif, mais de mondaines australiennes, pour qui la France, finalement, n'avait pas vraiment un très grand intérêt. Donc, la connexion à la culture française, une connexion tangible, qui était le but de l'Alliance française, disparaît très rapidement. Il y a un événement, un bal que ces dames organisent, par exemple, où l'une d'entre elles dit à un journaliste, pendant qu'elle buvait une coupe de champagne, que si on connaît bien la langue anglaise et la langue allemande, ça ne sert absolument à rien d'apprendre le français. Et ça, c'est quand même une réception de l'Alliance française. Et comme vous pouvez imaginer, ça a vraiment enragé l'établissement français. Et le consul de l'époque, donc un autre consul, Paul Maître, a fait une vraie bataille contre l'Alliance française pendant une dizaine d'années pour réformer l'Alliance, sa manière de fonctionner, et finalement pour prendre le pouvoir. Ce qui est intéressant dans une histoire comme ça, au-delà des intrigues qui sont fascinantes, c'est qu'on voit deux visions de la France apparaître au XIXe siècle. Pour les Français de l'époque, pour Paul Maître et d'autres qui étaient impliqués avec lui, c'est une question d'honneur national, de patriotisme, de la gloire de la France à l'étranger. Alors que pour ces femmes australiennes, on voit que la culture française, elle est vraiment détachée de la réalité de la nation française. Que pour elles, c'est une idée, d'abord, qui leur sert socialement, qui est liée à une expression de francité qui vraiment est un synonyme de cosmopolitanisme qui cherche ses racines au XVIIIe siècle, à une époque de francophilie en Europe. Donc pour elle, vraiment, cette connexion française, c'est un atout dans le jeu de la distinction qui définissait leur monde social, plus qu'autre chose.
Et dans un autre chapitre, je reviens sur l'histoire de l'immigration française en Australie et du va-et-vient entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Car la France se servait de la Nouvelle-Calédonie pour accueillir les bagnards surtout. Et certains sont venus illégalement en Australie, mais il y a des success stories, comme on dit, des Français en Australie.
Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, la France a colonisé la Nouvelle-Calédonie en 1853 et y a envoyé à peu près 30 000 bagnards et communards. Et beaucoup d'entre eux sont venus en Australie. Certains en tant que bagnards libérés, une fois qu'ils avaient fini de servir leur peine, et d'autres en tant que bagnards échappés, donc ils sont partis illégalement de l'île. Et cette immigration, qu'on ne connaît pas vraiment finalement, a beaucoup dérangé les autorités coloniales australiennes. Les autorités ici ont essayé de mettre en place plusieurs lois pour empêcher ce mouvement de bagnards, qu'ils viennent ici légalement ou illégalement, et ils se sont aussi servis d'eux pour faire avancer leurs propres agendas politiques. Si vous voulez, par exemple, en Victoria, James Service, l'homme politique, a beaucoup démonisé les bagnards et les a comparés au choléra, par exemple, pour convaincre ses pairs de fédérer les colonies australiennes avant la date, les fédérer en nation pour pouvoir prendre le contrôle des frontières de cette nouvelle nation qui était encore à l'époque la prérogative du gouvernement impérial à Londres. Alors, ce qui est intéressant quand on parle d'immigration française et de success story, c'est que, alors il y en a beaucoup, mais en un sens, ce sont aussi des exceptions. L'immigration française en Australie, elle est souvent pensée comme étant une immigration directe de France, en venant ici. On a déjà parlé de la Nouvelle-Calédonie, mais l'autre chose à dire, c'est d'abord que c'est une immigration très basse. Il n'y a pas des vagues migratoires de Français qui viennent ici. C'est vraiment une collection d'individus. Les deux dernières décennies du 19e siècle, par exemple, il y a à peu près 200 ou 230 000 immigrants britanniques qui quittent la Grande-Bretagne contre seulement 10 000 Français à l'époque. Donc c'est vraiment pas énorme. Et la plupart de ces immigrants français vont soit dans des pays voisins, donc ils restent en Europe, ou s'ils partent de l'Europe, ils vont en dehors de l'Empire français. Ils restent en dehors de l'Empire français. Et plutôt que d'aller en Algérie ou en Tunisie, ils vont aux États-Unis ou en Argentine ou au Brésil. Alors, on se plaint déjà à l'époque de cette mentalité casanière des Français qui n'émigrent pas ou peu. Bien en Australie, ce sont en majorité des gens de statut socio-économique assez bas. Ce sont des laboureurs, des fermiers et quelques enseignants de français. Il y a bien sûr de grandes exceptions, comme les noms que vous mentionnez, ou des entrepreneurs, comme un qui est assez connu, c'est Jules Joubert, et son frère Didier, qui ont fondé le district de Huntersfield à Sydney, qui pour deux générations s'appelait le village français, the French Village. Mais dans l'historiographie, la manière dont on parle des immigrants français en Australie, souvent c'est pensé au travers d'une optique historiographique qui date des années 70 à 80. Ça, c'est l'époque où l'Australie s'est réimaginée en tant que pays multiculturel. Donc à cette époque, on a écrit beaucoup d'histoires sur les communautés d'immigrants, donc les Français en Australie, les Grecs en Australie, les Italiens en Australie. Et ces livres, ces études suivent un schéma assez stable. On raconte l'histoire où les immigrants arrivent en Australie, ils travaillent dur, ils travaillent le sol, souvent ils produisent et mettent en valeur, et sont récompensés par le rêve de l'intégration et de la citoyenneté. Moi, ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est de rendre cette histoire, donc des success stories, un peu plus complexe. Donc je me sers dans ce chapitre en particulier d'un corpus d'une centaine de lettres qui ont été envoyées au consulat de Melbourne et Sydney par des immigrants ou des gens qui voulaient immigrer. Et ces lettres nous permettent d'aller un petit peu au-delà des statistiques migratoires qui déjà en général ne nous parlent que d'hommes et nous permettent de voir des histoires de femmes. Et comme ce sont des histoires d'individus, on peut parler ici du coup de succès mais aussi d'échecs, de la difficulté de l'immigration, la difficulté de l'intégration. Un exemple, par exemple, c'est une femme qui s'appelle Marie Coin. Elle était venue ici pendant 3 ans avec un contrat pour travailler comme couturière juste avant la Première Guerre mondiale. Mmh. Et finalement, son histoire est triste. Et c'est simple, elle s'est fait avoir. Ses conditions de travail étaient terribles. Ce n'est pas du tout ce qu'on lui avait promis. Elle s'est retrouvée destituée et elle a très simplement écrit au consul pour lui dire que l'Australie est un pays très beau, mais tant qu'à faire la misère, je préfère la faire chez moi. Et ils l'ont rapatriée. Et ces lettres aussi, cette centaine de lettres, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'elles nous démontrent la provenance globale ou mondiale des Français qui sont venus en Australie. Donc comme je disais, on imagine souvent que c'est une immigration qui vient directement de France jusqu'ici, mais les lettres que j'ai trouvées, elles proviennent de partout dans le monde. Elles proviennent d'Algérie, d'Égypte, de Brooklyn aux États-Unis, de Syrie, de Monte Carlo, d'Amérique latine, de Madrid, d'Irlande, du Canada. Et donc c'est vraiment une immigration qui est très atomisée, parce que c'est des histoires d'individus, mais qui vient vraiment de partout, et aussi de la Nouvelle-Calédonie.
Et donc, d'après ce que je comprends, ce livre, vous le dédiez surtout à vos parents, qui sont ici en Australie ou bien en Alsace?
Alors mes parents sont toujours en Alsace, oui. Je fais d'ailleurs partie de cette vague migratoire de Français qui viennent ici en tant qu'individus, sans famille et sans réseau. Toute ma famille est toujours en France. Et oui, j'ai dédié le livre à mes parents parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai pu faire mes études, poursuivre mes études, que je leur dois beaucoup. Et quelque part, finalement, l'idée du livre vient aussi de ma propre expérience migratoire et de ma propre expérience en tant qu'Alsacien qui a grandi sans parler la langue alsacienne, sans parler le dialecte. Et quand moi j'ai grandi, je fais vraiment partie de cette génération d'Alsaciens qui a quelque part rejeté sa propre culture et a vraiment voulu s'intégrer dans la France, dans la culture française. Et c'est de là que m'est venue vraiment l'idée de penser conceptuellement le livre, non pas en tant qu'idée, que livre de sur l'immigration, mais sur l'idée de la Frenchness, de la francité, et de comment les gens se servent de cette idée pour parvenir à certaines fins sociales. Et c'est comme ça que dans le livre, je rassemble les histoires de ces immigrants, mais aussi de l'Alliance française et de ces bourgeoises du Melbourne colonial de l'époque.
Alors, au début de l'interview, je vous ai présenté comme l'auteur de French Connection, de ce livre qui vient de sortir chez New South. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous êtes prof à RMIT, University of Melbourne, comme conférencier de Global and Language Studies. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu votre parcours professionnel ?
Oui, tout à fait. Donc moi je suis venu en Australie quand j'avais 21 ans, en 2007. Je pensais venir ici pendant 6 mois et aller cueillir des fruits à droite et à gauche et juste m'amuser un petit peu et repartir en France. Mais finalement je suis tombé amoureux du pays et j'ai voulu rester. Du coup j'ai poursuivi mes études ici, j'ai fait un master à l'Université de Sydney en histoire et mon doctorat à l'Université nationale australienne à Canberra, en histoire encore une fois. Et j'enseignais aussi en même temps dans le département de français. J'ai fait des formations supplémentaires dans l'enseignement du français en tant que langue étrangère. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon poste à MIT, où j'enseigne et dans le département des études françaises et dans le département des études globales. Donc j'enseigne des cours d'histoire et d'études françaises.
Et donc, est-ce qu'on peut peut-être vous demander quel sera le prochain projet, un autre livre peut-être ?
Oui, tout à fait. Alors, je pense que le prochain projet sera centré sur ces bagnards évadés de la Nouvelle-Calédonie. J'ai passé beaucoup de temps pendant mes recherches pour ce livre à chercher ces bagnards et essayer de les trouver dans les archives. Et je pense que j'ai suffisamment de matériel pour commencer à assembler leurs histoires en tant que biographie collective. Et j'espère, dans quelques années, pouvoir écrire un livre donc, qui s'intéresse à la vie de ces bagnards qui soient évadés ou libérés, mais qui sont venus en Australie, et de la réaction des Australiens et des colonies australiennes envers cette immigration dont on ne connaît pas grand-chose.
Alexis Bergantz, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en français. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.